tu comprends des choses, controverses tes travers, en vers et puis en prose, découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose en comprenant tes travers, viendra la métamorphose.
Au travers de Zao de Sagazan.
Oui, Monique, vous avez eu la chance de la voir en spectacle.
Oui, mon Dieu, que j'ai adoré ce spectacle, Hélène. Oh là là.
Je me souviens très bien.
Mais il y avait tant de monde.
Pardon?
Je pense que j'ai attrapé l'influenza.
Oh non!
Oui, 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 oh, c'était incroyable. Le Granada était, oh mon Dieu, full house, comme on dit en chinois.
Ça explosait et puis après...
Ah ben, mon Dieu, bon, c'était incroyable.
Vous en avez subi les conséquences, mais j'allais dire, est-ce que ça valait la peine? Là,
oh, drôle ça de valait question. La peine. J'ai ouais. vraiment eu beaucoup de plaisir à voir cet artiste vraiment tellement original, créative, entière.
Alors, si elle revient au pays, là, il ne faut pas la manquer.
Non, il ne faut pas la manquer.
Monique,
exactement.
Vous allez partager avec nos auditeurs et auditrices un texte écrit, publié dans la conversation intitulée « Les professionnels de la santé ne sont pas à l'abri des préjugés envers les personnes handicapées ».
Oui, et c'est Mathieu Bois-Gontier qui est professeur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa qui nous dit que ben, nous avons tous des biais, Hélène, qu'ils soient positifs ou négatifs lorsque nous analysons les situations et les personnes qui nous entourent.
Oui, on parle pas ici de biais de spectacle.
Non, c'est vraiment BIAIS.
Oui, des préjugés, quoi.
Par exemple, on peut spontanément penser à tort qu'une personne qui parle avec un accent est moins compétente, que les garçons sont naturellement meilleurs en mathématiques, ou encore qu'une personne avec un handicap physique a forcément des difficultés intellectuelles et qu'elle ne peut donc pas occuper un poste à responsabilité.
Des idées reçues.
C'est fou, hein?
Oui.
Qu'on le veuille ou non, ces biais psychologiques, aussi appelés attitudes, sont incrustés dans notre cerveau et influencent tant nos décisions que nos comportements au quotidien. Et ça, on n'en est peut-être pas toujours conscient, Hélène.
Non, c'est vrai.
De plus, les cliniciens ne sont pas à l'abri d'attitudes défavorables, notamment à l'égard de leurs patients, ce qui nous étonne un peu, mais bon, ce sont des humains quand même. Alors, chercheur en neuropsychologie de la santé à l'Université d'Ottawa, le professeur Mathieu Bois-Gontier propose d'apporter un éclairage sur deux études qu'il a menées sur les attitudes envers les personnes en situation de handicap. Les deux études se basent sur les données de participants répartis en trois grands groupes professionnels. D'abord, ben, il y a les cliniciens, c'est-à-dire médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers, infirmières. Ensuite, il y a les assistants en réadaptation. On pense aux aides ergothérapeutes et aides physiothérapeutes. Et finalement, le troisième groupe, les personnes exerçant d'autres professions, pas forcément en relation avec la santé. Alors, ces données ont été recueillies, Hélène, pendant 19 ans.
Ah, quand même! Longue période!
Quand même, vous allez voir que l'échantillonnage est assez vaste. Sur le site de Implicit Project, alors si vous le voulez, vous saisissez dans votre moteur de recherche Implicit Project et vous arrivez sur le site qui offre à n'importe qui, n'importe où dans le monde, la possibilité de tester gratuitement et anonymement ses attitudes dans différents domaines, tels que l'origine ethnique, la religion, le poids, la sexualité et le handicap.
Ah, j'imagine que c'est en anglais.
Oui, c'est en anglais. Je suis allée sur le site, mais bon, j'avais pas beaucoup de temps pour m'inscrire et puis tester la chose, mais c'est simple à faire, en fait.
D'accord.
Avant de présenter ces deux études plus en détail, professeur Bois-Gontier précise que son choix des mots pour parler du handicap n'est pas dû au hasard. Alors, l'expression « personne en situation de handicap » est souvent privilégiée parce qu'elle met l'accent sur la personne plutôt que sur le handicap. À l'inverse, l'expression « personne handicapée » peut être perçue comme une réduction de la personne à son handicap. Cependant, des recherches récentes montrent que l'utilisation du terme « personne en situation de handicap » ne réduit pas toujours les préjugés et pourrait même renforcer la distance ou la condescendance.
Ah oui.
Oui, c'est étonnant. Moi, j'ai dit « Ah oui, comme vous » en lisant ça. Et l'Association américaine de psychologie conclut que les deux formulations sont légitimes tant qu'elles sont utilisées avec bienveillance et qu'elles respectent les préférences des personnes concernées. Tout est dans le ton, finalement.
Mm-hmm. On retient ça, bienveillance puis respect des personnes concernées.
Exactement. La première étude, publiée dans Physiotherapy Canada, se base sur les données de plus de 660 000 participants, Hélène.
Hey, c'est beaucoup.
Quand je disais que c'était un bon échantillonnage. Elle a permis de caractériser l'évolution des attitudes envers deux types de handicap. Le handicap général, incluant, entre autres, la cécité. Ces données ont été récoltées de 2006 à 2021. Et le handicap physique, les données à cet égard ont été récoltées de 2022 à 2024. L'étude teste aussi deux types d'attitudes. Les attitudes explicites, qui peuvent être formulées consciemment en répondant à des questionnaires. Par exemple, je préfère les personnes qui ne sont pas en situation de handicap aux personnes handicapées. Et les attitudes implicites ou automatiques, qui sont souvent inconscientes. Les résultats montrent que les attitudes explicites, soit celles qui sont déclarées par les participants à l'égard des personnes handicapées, sont devenues moins défavorables au fil des ans. Cependant, on s'en doute, les attitudes implicites, inconscientes, sont restées relativement stables et défavorables.
Oui, parce qu'elles sont inconscientes.
Exactement. Donc, c'est peut-être la vraie nature de la bête. En effet, pendant la période de l'étude, la population générale, incluant les cliniciens, semble avoir plus de difficultés à associer des images illustrant le handicap à des mots positifs qu'à des mots négatifs en comparaison à des images illustrant l'absence de handicap. Ces attitudes défavorables sont particulièrement marquées lorsqu'il s'agit de handicaps physiques tels que représentés par des personnes en fauteuil roulant ou des personnes qui utilisent des béquilles ou une canne. En comparaison, les attitudes semblaient légèrement moins négatives envers des formes de handicap plus générales, incluant par exemple des personnes aveugles et malvoyantes. La seconde étude, qui a été publiée dans European Rehabilitation Journal, s'est concentrée sur les données des années 2022 à 2024, portant uniquement sur le handicap physique et incluant 210 000 personnes. Les résultats renforcent l'idée d'une préférence implicite et explicite de l'ensemble de la population pour les personnes sans handicap, tout en montrant que les cliniciens ne sont pas mieux prédisposés que les autres professionnels. Il semble donc que la profession ait peu d'effet sur les attitudes envers les personnes handicapées. Cependant, d'autres facteurs ont émergé des analyses. D'une part, les hommes ont des attitudes plus défavorables envers les personnes handicapées que les femmes. D'autre part, les participants ayant une expérience personnelle du handicap, avoir des amis, des connaissances ou des membres de la famille handicapés ou qui sont eux-mêmes handicapés ont des attitudes plus favorables envers la personne en situation de handicap. La présence et la stabilité d'attitudes implicites défavorables chez les cliniciens soulèvent bien sûr des questions quant à le possible impact sur les soins prodigués aux patients. Est-ce que cette différence d'attitude pourrait rendre leur prise en charge moins équitable? Ce n'est pas impossible. Et en effet, les attitudes, en plus de prédire les comportements futurs, influencent la prise de décision dans des contextes professionnels.
Mais là, ça devient embêtant, inquiétant.
Ça devient embêtant, puis vraiment gênant, en tout cas.
Oui.
Hein? Pour vous. En tout cas, ces résultats illustrent la tendance de nos sociétés à considérer une personne handicapée comme intrinsèquement moins capable ou moins importante que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et Hélène, cette dévalorisation des personnes en situation de handicap s'appelle le capacitisme.
Mm-hmm.
Tout comme le racisme, le sexisme et l'âgisme, le capacitisme ostracise une partie de la société en réduisant consciemment ou inconsciemment leurs opportunités de participer à la vie de leur collectivité. Alors, même si nos attitudes déclarées envers les personnes en situation de handicap se sont améliorées au fil des années, nos préjugés inconscients, malheureusement, persistent. Et ce constat souligne l'importance de mettre en place des stratégies éducatives plus efficaces. Pour déconstruire les stéréotypes de façon durable, il faut multiplier ces occasions de côtoyer des personnes handicapées. Ah donc, en conclusion, à une époque où les idéaux d'équité sont à la fois en progrès et malheureusement en danger, mais la lutte contre ces tendances psychologiques défavorables aux personnes handicapées est non seulement essentielle pour améliorer leurs soins, mais aussi une priorité éthique pour la société que nous voulons construire pour notre futur.
Oui, ça fait réfléchir, ce texte-là.
Oui, ça fait réfléchir. Je me suis dit que j'allais débuter la saison avec force.
Oui, et c'est mission accomplie, Monique. Donc, rappelez-nous où vous avez trouvé cet article fort pertinent.
Oui, c'est dans La Conversation. Ça a été publié le 13 août 2025 sous la plume de Mathieu P. Bois-Gontier, professeur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa.
Merci. Brève, des brèves avec Monique. La patience est-elle une stratégie ou une noble vertu? Mais moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de malice, alors je dirais que c'est une vertu.
Ben, c'est une stratégie, Hélène.
Ouais. Ben, oui, c'est, oui, je peux comprendre que ça peut être une stratégie, c'est vrai.
Ouais. Alors, un enfant qui fait du bruit au cinéma, un embouteillage alors qu'on se rend à un concert ou à un rendez-vous important, l'interminable attente d'un résultat médical, ce sont quelques-uns des horripilants scénarios soumis par un trio de psychologues de l'Université de Californie à 1401 participants pour évaluer leurs réactions. Alors, la patience est-elle une question de caractère ou est-elle déclenchée par la situation? Les chercheuses, parce que c'était trois chercheuses, concluent qu'il s'agit bien d'une réaction. Elles ont en effet pu dégager trois caractéristiques du contexte, trois déclencheurs de notre impatience. Bon, l'attrait de l'objectif, l'inconfort durant l'attente, la responsabilité d'une personne extérieure. Signe que la patience est bien une stratégie et non une noble vertu. Même si les chercheuses admettent que nous ne sommes pas tous égaux, ceux qui y parviennent le mieux, qui parvenaient le mieux dans l'étude, là, étaient dotés d'un caractère plus souple, plus sensible et moins impulsif. C'est probablement ce que nous avons comme caractéristique, Hélène.
Ah, certainement. Et Wentworth Nord, on a regardé, et ce n'est pas du tout dans les cantons de l'Est, mais dans les pays d'en haut, dans les Laurentides.
Ah, mon Dieu! Oui. On est complètement perdu.
Complètement perdu. Mais au moins, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés.
Ah oui!
Abonné. Mais là, ouais. Ben, non, mais c'est parce que, il me semble que ça sonnait canton de l'Est.
C'est... Ben, moi, j'étais convaincue, là.
Oui, puis imaginez, vous vivez en Estrie.
Oui, mais c'est grand, l'Estrie. Là.
Oui, quelle belle région. Est-ce une bonne idée de mettre des abréviations dans les textos?
Qu'en pensez-vous?
Bien, quelquefois, on s'y perd, là.
Oui, ben
bon,
non.
Moi, je comprends « Oh my God », là, mais
c'est... c'est pas une bonne idée. Parce non. que ça fait mauvaise impression. Et ça enlève toute sincérité au message. Alors même que 80% des personnes interrogées au préalable ne voyaient aucun inconvénient à écrire, ben moi j'ai jamais écrit ça là, SLT, ça veut dire salut, ou CC, c'est pas copie conforme, mais c'est à la place de coucou.
Ah oui, coucou, ben je savais pas ni salut alors, ni coucou. C'est... Alors je prends ça en note pour être plus cool. Moi, oui. Mathieu, alors... il a l'air d'être comme dépassé en non. disant franchement.
Non mais je veux dire au lieu d'écrire boulevard, je vais écrire BLVD.
Ah oui oui, mais ça dire,
c'est
moi tu connais
c'est correct.
Oui
là.
Oui. Ça
on
passe.
Peut aussi, on peut aussi choisir BOUL. Hein, ce qui serait plus français.
Oui,
bon,
oui,
alors
c'est vrai.
Alors, pour cette étude, là, il y a une équipe de l'Université Stanford qui a d'abord invité des jeunes à flirter comme s'ils étaient sur une messagerie de rencontre, mais en demandant à l'un des deux interlocuteurs de choisir dans une liste de 8 mots, soit en toutes lettres, soit abrégés. Ben, les résultats, c'est ceux qui abrégeaient les mots paraissaient moins sincères, moins impliqués dans l'échange. Les psychologues ont ensuite analysé 200 000 conversations sur Tinder à travers 37 pays, Confirmation, les échanges tournaient court quand ils contenaient beaucoup d'abréviations, et ce, indépendamment de l'âge, du genre ou du niveau d'études des personnes qui chattaient.
Mm-hmm. Mais alors, entre les abréviations et les fautes d'orthographe, qu'est-ce que vous choisissez? Ni une ligne?
Oh, je vais choisir les fautes d'orthographe.
Ah oui, OK. Pour ben pouvoir moi, les corriger.
Pas. Écoutez, je n'avais jamais vu ça, SLT. OK, salut.
Non.
Moi, j'écris souvent « Coucou, c'est moi ».
Ben, oui.
Mettre CC, CC, c'est moi.
Je voulais te faire un petit CC. Comment ça, une copie conforme?
Oui, c'est ça. C'est quoi cette histoire?
Oui.
Mais bon, on n'est pas in, Hélène.
Ben, ça a l'air que non. Alors, Monique, ça, mais non, mais on n'est pas out quand même. On n'est ni
non,
in
non,
ni
non,
out.
Non, on est hot, mais pas out.
La capsule linguistique en tout et partout est-elle une expression reconnue? Bien, c'est une expression connue, mais reconnue, je ne sais pas.
Ah ben non, c'est pas la formulation correcte, là. C'est en tout et pour tout.
Ah oui!
Et en tout et pour tout a un sens légèrement plus fort que la locution quasi synonyme au total. Par exemple, si on dit qu'il y a 20 personnes en tout et pour tout, c'est qu'on veut vraiment insister sur le fait qu'il y a 20 personnes et pas une de plus.
On l'entend alors, rarement, hein? Et tout est pour tout.
Mais on entend parfois en tout et partout, puis
oui.
Ben, ça n'existe pas, en fait. Voilà.
Mais on devrait entendre plus souvent en tout et pour tout ou, comment vous dites, au total.
Oui, c'est ça, okay. Au total.
Et oui. Non au final.
Non.
Ah oui, ça, on l'entend souvent.
Oui.
Oui, mais c'est
on
pas bon.
On entend toutes sortes de choses.
On entend plein d'affaires. Alors, Monique, merci beaucoup pour votre contribution de ce jeudi. C'est votre première chronique de la rentrée de la saison 2025. Puis on va se retrouver la semaine prochaine.
Avec grand plaisir, Hélène.
Et là-dessus, je vous dis SLT.
Oui, au revoir.
Salut, bye-bye.
Bye-bye.